VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 8 janvier 2019. En direct de Washington, Edressa Segudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire général de l'ONU, l'Union africaine et la France condamnent le coup d'État manqué d'hier au Gabon.
Report à vendredi de la réunion que le Conseil de sécurité de l'ONU devait avoir aujourd'hui sur la récente présidentielle en République démocratique du Congo.
La haute cour constitutionnelle malgache doit proclamer aujourd'hui les résultats contestés de la présidentielle entre Ndjiragouel et son rival Marc Ravalomanana.
Ici à Washington, discours à la nation du président Donald Trump ce soir, alors que persiste l'impasse sur le shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral.
Entretien aujourd'hui en Turquie entre John Bolton, conseiller en matière de sécurité nationale du président Trump, sur la décision de Washington de retirer ses troupes de Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné, tout comme l'Union africaine et la France, le coup d'État manqué au Gabon, dont le président Ali Bongo est toujours en convalescence au Maroc. Le point avec Raïssa Girondin.
Selon Stéphane Dujarric, son porte-parole, le chef de l'ONU condamne donc cette tentative de coup d'État et appelle tous les acteurs à suivre les moyens constitutionnels. François Lousenifal, émissaire de l'ONU pour l'Afrique centrale basé à Libreville, suit la situation de près, a encore dit M. Dujarric. L'Union africaine a fermement condamné ce coup d'État manqué, tout comme Paris, qui appelle au strict respect de la Constitution. Hier, à l'aube, un groupe de 5 à 6 militaires est allé à la radio-télévision nationale à Libreville. Ils ont pris en otage des journalistes et ont passé un communiqué appelant à un soulèvement populaire en annonçant la prochaine formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. Les forces de sécurité ont aussitôt été déployées à Libreville après des échanges de tirs. Une bonne partie de la population est restée terrée chez elle. Le porte-parole du gouvernement, Guy-Bertrand Mapangu, a déclaré que la situation est sous contrôle. Le lieutenant Ondo Obiankeli, commandant adjoint de la garde républicaine, présenté comme le chef de ce groupe, a été arrêté et deux autres membres du commando ont été tués, d'après la présidence gabonaise.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, à la demande de l'Afrique du Sud. Les détails avec Irénée Herman Ongo.
La réunion publique a prévu initialement ce mardi aura lieu vendredi prochain. Les 15 réunis à huis clos vendredi dernier n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en RDC. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, a pesé pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés. Dimanche, la CENI en RDC a renvoyé la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des procès-verbaux ont été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que les Nations Unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires. Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain à l'ONU, Jerry Makila, avait confié à des journalistes que le monde devait être très, très patient pendant le décompte des voix. La France avait souhaité une déclaration au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin.
Au Burkina Faso, le procureur Abdoulkader Nagalo a fait le point hier soir après les tueries de Yirgou dans le centre nord, des tueries qui ont fait le jour de l'an 47 morts, des éleveurs peuls pour la plupart. De Ouagadougou, correspondance de Lamine Traoré.
Sur le plateau du 20h de la télévision nationale, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord, où a eu lieu les tueries de Yirgou, rassure qu'une enquête judiciaire a aussitôt été ouverte et ces tueries seront traitées avec rigueur et fermeté. Abdoulkader Nagalo.
Dans un état de droit, ce sont des faits qui sont inacceptables. Ce sont des actes graves, justement, de violation des droits humains. Il y a déjà une équipe de 10 enquêteurs en place et il y a un renfort qui doit aller les assister pour que les choses aillent vite.
Le procureur a annoncé que pour l'heure, aucune interpellation n'a été faite, même si plusieurs Kogliogo, cette milice d'autodéfense, ont assumé la responsabilité de cette tuerie de Yirgu. C'est à la suite d'une attaque terroriste le 1er janvier que des villageois, appuyés des Kogliogo, ont pris d'assaut les campements de Liverpool. En guise de représailles, des dizaines de Peuls ont été tués et leurs maisons incendiées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Burkina toujours, le général Djibril Bassolé, l'un des auteurs présumés du putsch manqué de septembre 2015, a refusé hier, au procès, d'évoquer les écoutes téléphoniques, pièce maîtresse du dossier d'accusation. Cet enregistrement porte sur une conversation téléphonique que l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères aurait eue avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, et dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch du 16 septembre 2015. Selon M. Bassolé, ces écoutes ont été fabriquées, manipulées et constituent des enregistrements sauvages placés à dessein dans le dossier pour l'accabler.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle doit proclamer ce mardi les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier, dont la victoire a été attribuée à l'ancien président Andry Rajoel, malgré les accusations de fraude de son rival Marc Ravalomanana. Selon les résultats publiés par la commission électorale, M. Rajoel a nettement remporté le second tour, disputé le 19 décembre, en recueillant 55,66% des suffrages contre 44,34% à M. Ravalomanana. Élu président en 2002, ce dernier avait été contraint de démissionner face à une vague de manifestations violentes fomentées par M. Rajoel, à l'époque maire d'Antananarivo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump doit s'adresser à la nation ce soir à propos de la situation à la frontière avec le Mexique. Les négociations pour mettre fin au shutdown sont toujours bloquées. Le point avec John Linden.
Je suis ravi de vous informer que je vais m'adresser à la nation sur la crise humanitaire et de sécurité nationale à notre frontière sud. Mardi soir à 21h, 2h GMT, a tweeté le président américain. Quelques heures plus tôt, la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, avait annoncé que le président Trump se rendra jeudi à la frontière avec le Mexique pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale. Le shutdown, paralysie partielle des administrations fédérales, est entré dans sa troisième semaine. Le président répète à volonté qu'il veut plus de 5 milliards de dollars pour édifier un mur à la frontière sud afin de lutter contre l'immigration clandestine. Il a affirmé dimanche être prêt à ce que ce mur soit fait d'acier et non de béton si cela permettait de débloquer les négociations. Les démocrates, qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, sont radicalement opposés au financement de ce mur qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace.
Quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux sont affectés par le shutdown, contraints soit à rester chez eux, soit à travailler en attendant la fin du blocage pour être payés.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, s'entretient ce mardi avec des responsables turcs de la décision de Washington de retirer les troupes américaines de Syrie. Cette décision, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, fait de la Turquie le seul pays pouvant mener les opérations pour stabiliser la situation en Syrie et y éliminer les racines de la radicalisation après le retrait des États-Unis. Selon M. Bolton, ce retrait se ferait de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis dans la région soit absolument assurée, notamment en ce qui concerne les alliés kurdes de Washington.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en gare de Pékin mardi pour une nouvelle visite en Chine, visite au cours de laquelle il doit rencontrer le président Xi Jinping, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Salami.
Au Kenya, les recettes tirées du tourisme ont bondi de près d'un tiers en 2018, soit 31,2% par rapport à l'année précédente. Cette performance serait due à une hausse de 37% du nombre de visiteurs étrangers dans le pays. Plus de 2 millions de touristes ont visité le Kenya, contribuant ainsi à porter les revenus touristiques à plus de 1,55 milliard de dollars. Le lancement des vols directs entre Nairobi et New York par Kenya Airways devrait permettre d'augmenter le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, l'un des plus gros pourvoyeurs de touristes de ce pays. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, annonce sa démission de cette institution de développement le 1er février, 4 ans avant la fin de son second mandat. Âgé de 59 ans, Jim Yong Kim, qui a présidé la Banque mondiale pendant 6 ans, indique qu'il va seulement rejoindre une société et se focaliser sur les investissements dans les infrastructures dans les pays en développement. Il sera remplacé dans l'intérim par Kristina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. L'or a grimpé hier juste en deçà d'un sommet jamais atteint depuis plus de 6 mois. L'or au comptant était en hausse de 0,3% et se négociait à 1 288 $ l'once. L'argent est resté stable à 15,69 $ l'once, tandis que le platine a reculé de 0,7% et coûtait 816,71 $.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaîtra aujourd'hui le Ballon d'Or africain 2018.
Et oui, 3 finalistes sont en lice, le même trio que l'année dernière. Le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, et son coéquipier en club, l'Égyptien Mohamed Salah. Moussala, tenant du titre, a eu une saison réussie avec Liverpool. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 13 réalisations et a été désigné meilleur joueur de la Premier League pour la saison 2017-2018. L'attaquant égyptien de 26 ans a inscrit 44 buts la saison dernière. Derrière lui, c'est son coéquipier de club, le Sénégalais Sadio Mané, qui voudrait bousculer ses stats, lui qui compte 8 buts à son actif cette saison. L'un de ses deux cadors, le Gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, est présent sur le podium pour la 5e fois de suite. À son avantage, le titre de meilleur buteur actuel de la Premier League avec 14 buts.
Toujours ce soir, on saura qui va organiser la CAN 2019.
Oui, la CAF va annoncer ce mardi à Dakar quel pays accueillera dans moins de 6 mois la CAN 2019 en remplacement du Cameroun, écarté pour impréparation. Ça se joue entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010. Elle a déjà organisé la CAN à 2 reprises en 1996 et en 2013, où elle avait remplacé la Libye. L'Égypte a pour sa part déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006.
La Guinée accepte l'organisation de la CAN 2025.
Les présidents du Cameroun et de la Guinée ont accepté le glissement du calendrier de l'organisation des prochaines CAN. Il reste à rencontrer le président de la Côte d'Ivoire, a affirmé le président de la CAF Ahmad. Il était en visite à Conakry avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Initialement, la Guinée devait abriter la CAN 2023, telle qu'attribuée sous la présidence d'Issa Hayatou. Sauf qu'avec le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et l'annonce de l'organisation de la CAN 2021 par le pays des lions indomptables, toutes les cartes sont redistribuées. La CAF a alors annoncé un décalage des dates pour les prochaines CAN, soit 2021 au Cameroun, 2023 en Côte d'Ivoire et 2025 en Guinée. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
San Antonio et Détroit, 119 à 107. Boston et Brooklyn, 116 à 95. Houston et Denver, 125 à 113. Milwaukee et Utah, 114 à 102. La Nouvelle-Orléans et Memphis, 114 à 95. Les Lakers et Dallas, 107 à 97.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le lieutenant Ondo Obiang Kelly, commandant adjoint de la garde républicaine, est présenté comme le chef du commando qui a mené le putsch manqué d'hier, a été arrêté et deux autres membres ont été tués selon la présidence gabonaise. Les membres du groupe étaient apparus hier à la radio nationale à Libreville pour appeler à un soulèvement en annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Pour une analyse et le contexte de ce coup manqué, Idriss Fall a joint le professeur Auguste Eyene Essono de l'Université de Libreville.
D'abord, je ne sais pas si c'est un coup d'État. Je n'ai pas tous les éléments à mon appréciation. Et de deux, admettons que ce soit un coup d'État, je ne sais pas si on a le recul suffisant pour dire que c'est un coup d'État manqué. La situation est délétère ici à Libreville. Le président Bongo Ali connaît des problèmes de santé. La version officielle qu'on a ici est que le président Bongo est toujours en vie et qu'il serait en convalescence du côté du Maroc.
Mais le commando a bien lu une déclaration de 3 minutes sur la radio nationale.
Oui, tout à fait. Le commando a lu une déclaration. Le commando a regretté le fait que le président, dont on dit qu'il est en convalescence, qu'on le contraigne à venir lire un discours à la nation, alors qu'il est dans un état qui ne lui permet pas d'assumer encore aujourd'hui toutes les charges que lui impose la fonction présidentielle. Le commando a estimé que là, nous ne donnons pas une très bonne image de notre pays, tout comme nous ne donnons pas une image digne du président de la République.
Ils ont demandé au peuple gabonais de se révolter, mais apparemment le peuple gabonais n'est pas sorti massivement.
Personne ne peut affirmer que le peuple gabonais ne soit pas descendu dans les rues massivement. Les choses se sont passées très vite. Vous savez, ça a commencé à 4 heures. C'est autour de 8 heures, je crois, 8 heures, 9 heures, que les spéculations ont commencé à aller bon train. Et très vite, le gouvernement a tenu à désamorcer, ne serait-ce que par la communication, ce qui se passait. C'est aussi, d'une certaine façon, une guerre d'image, la guerre de l'information. Le gouvernement a tenu à démentir tout de suite l'importance, du moins à désamorcer par la communication ce qui se passait. Et le gouvernement est très vite allé affirmer que, bon, la situation était sous contrôle, que 4 des 5 soldats qui faisaient partie de ce commando, 4 étaient maîtrisés et que un seul est en fuite.
Le gouvernement dit même avoir arrêté celui qu'il présente comme le cerveau de ce commando, Ondo Kelly.
Oui, je ne sais pas s'il faut prendre au pied de la lettre les déclarations du gouvernement. Le gouvernement affirme un certain nombre de choses, mais qui à ce jour me sont invérifiables. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en discutant avec les Gabonais, apparemment le peuple soutient l'action de ces commandos, que le peuple soit allé dans la rue ou pas, mais en discutant, si je m'en tiens au témoignage des Gabonais, l'action est tout à fait soutenue par le peuple gabonais. Maintenant, est-ce que le peuple est allé dans la rue ou pas? Je ne peux pas en juger parce que moi, je ne suis pas sorti.
Et on nous dit que Internet même ne marche pas.
Oui, nous n'avons pas accès à Internet. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a suspendu l'accès à Internet. Je ne sais pas si c'est une panne, mais ça serait grosse comme coïncidence. Nous n'avons pas accès à Internet, tout comme les télévisions locales ne fonctionnent pas. Les télévisions locales fonctionnaient jusqu'à, je crois, 8h, 9h, le temps que le communiqué du commando passe en boucle, mais très vite, les médias ont été suspendus. Nous n'avons ici accès qu'aux médias étrangers.
C'était le professeur Auguste Eyene Essono de l'Université de Libreville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nombreuses réactions à Kinshasa après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante de renvoyer à une date ultérieure la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre 2018. À l'opposition comme à la majorité, on se montre impatient. Et la population, qui a hâte de connaître le nom de son nouveau président de la République, demande à Corneille Nangaa, le président de la CENI, de ne pas maintenir le suspense encore plus longtemps. Reportage de Thierry Kamoundi de Top Congo FM notre station partenaire à Kinshasa.
La CENI va annoncer les résultats dès qu'il aura consolidé tous les prix venus des différents bureaux de vote. En tout cas, elle ne le fera jamais sous la pression.
Nous ne sommes pas prêts, mais nous ne publierons pas non plus les résultats sous la pression, a déclaré dimanche Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante. En réaction à ce report de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre 2018, Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila et cadre du Front commun pour le Congo se dit confiant malgré tout.
Nous sommes sereins et confiants. Nous attendons. Il faut laisser à la CENI le temps de faire un travail convenable. Nous n'allons pas être parmi ceux qui font pression.
Jean-Baudin Maillot de Cap pour le changement. La coalition qui a porté Félix Tshisekedi à la présidentielle comprend la décision de la CENI, mais le secrétaire général de l'UNC demande à Corneille Nanga de faire un travail sérieux et objectif.
Nous comprenons ce report. Mais nous disons que la CENI doit éviter d'agir à la légère. La CENI doit respecter ses propres engagements. Finalement, nous nous comprenons parce que la réalité du terrain est que le travail n'est pas fini.
Pour sa part, Prince Pengé de la coalition Lamouka de Martin Fayoulou fait preuve d'impatience.
Nous appelons M. Nanga à comprendre qu'il n'a pas le droit de jouer avec la venue de 80 millions d'âmes et de procéder à la publication des résultats très 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 vite.
Intervenant sur ce même sujet, le ministre du Développement Rural, Justin Bitakura, appelle lui toutes les parties à l'apaisement et s'insurge contre le dictat étranger.
Que les FCC s'apaisent, que les amis de l'opposition s'apaisent et que les pays étrangers qui n'ont contribué un seul rond à nos élections, qui se prononcent aux élections qui les concernent et pas aux élections de la République démocratique du Congo.
Ce suspense qui se prolonge n'est pas non plus du goût des Kinois interrogés par Top Congo FM.
Selon moi, c'est une crise d'organisation que la CENI doit revoir pour satisfaire la population. Parce que la population est vraiment dans l'impatience d'attendre le résultat.
Je suis choqué parce qu'en voyant la décision du président de la CENI, ce n'est pas normal parce que le résultat ne peut pas être reporté. Ils ont reporté la date pour la vote. Et sur le résultat, ils ont encore reporté. Ils veulent nous amener où?
Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
La semaine dernière, le Burkina Faso a vécu une tragédie. Des violences intercommunautaires ont fait 47 morts dans le centre-nord du pays, des membres de l'ethnie peul pour la plupart. Le président Roch Marc Christian Kaboré s'est rendu sur les lieux pour tenter de calmer les esprits et appeler à la réconciliation. Comment expliquer ce drame? Eric Manirakis a joint hier soir à Ouagadougou le défenseur burkinabé des droits de l'homme Ismaël Diallo.
Nous aimons, nous, Burkinabés, nous flatter que nous n'avons pas de problème ethnique et que nous vivons en parfaite harmonie entre communautés. Ces crimes viennent nous rappeler que nous n'avons pas su, depuis l'avènement de l'indépendance, construire une nation, mais que nous avons vécu entre ethnies, entre communautés juxtaposées. Il faudrait chercher à comprendre pourquoi il y a ce désamour entre certaines communautés et pourquoi pouvons-nous aller jusqu'à des assassinats. La question est très complexe. Mais il faudrait d'abord que nous acceptions que nous avons ce problème avant de pouvoir l'examiner et le résoudre si nous en avons la volonté et la capacité.
On ne pouvait pas penser qu'une telle tragédie pouvait arriver au pays des hommes intègres.
Personne ne pense que nous avons ces différents ethniques. Ça a toujours été quelque chose de latent. Je ne dirais même pas que ça date de longtemps, hein. Ça date peut-être de quelques décennies. Moi, quand je grandissais au Burkina, je ne connaissais pas d'antinomie et de haine sourde entre ethnie A et ethnie B, ce que beaucoup de Burkinabés refusent de reconnaître.
Et où sont les hommes intègres?
Oui, au pays des hommes intègres, comme vous dites, quoique nous ayons perdu beaucoup de notre intégrité depuis quelques années.
Le président de la République s'est rendu sur les lieux. Est-ce que vous sentez une présence de l'État dans cette localité frappée par cette tragédie?
J'entends des commentaires qui ne sont pas élogieux sur ce passage-là et sur les propos qu'il a tenus, parce que à son arrivée, il a été reçu par une milice armée, qui n'est pas une institution, une branche, une structure de l'appareil étatique. Et en plus, il a eu l'air de privilégier dans ses propos l'entente, la réconciliation, plutôt que la justice. Et nous ne pouvons pas, en tout cas beaucoup de Burkinabés ne s'illusionnent pas, de penser que nous pouvons aller à une réconciliation quelconque si nous ne passons pas par la justice. Et il faudrait donc passer par cette justice.
Donc ça ne résout pas le problème, de fond.
Ça ne résout pas le problème. C'est à nous tous de nous emparer de ce problème et d'être francs entre nous, de pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal et discuter ouvertement sur ces différents ou ces différences que nous avons. Si nous tenons à perpétuer ce que nous aimons appeler le vivre ensemble, il y a des déchirures qu'il faudrait colmater, qu'il faudra réparer.
Comment justement régler ce problème ethnique dont vous parlez?
En dehors des rixes, des querelles sur le foncier, nous avons su préserver la quiétude sociale. Mais nous sommes, je crois, arrivés à une limite où nous devons, toute honte due, regarder les choses en face et accepter que nous ne sommes pas une exception sur les questions ethniques et que nous devons nous regarder en face et traiter nos problèmes.
On voit le même problème au Mali, aussi au Nigeria. Est-ce qu'on peut parler d'un crime spontané? Comment le qualifier?
Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un complot généralisé contre les jeunes, mais il est intéressant et je crois qu'il serait bon de poser le problème très clairement. Qu'on soit seul ou pas seul, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un problème seul dans beaucoup de pays ouest-africains et centrafricains. Pourquoi? Est-ce que cette ethnie est différente des autres? Est-ce que cette ethnie ne sait pas vivre avec les autres? Ou est-ce que c'est une manipulation qui ne date que de 2 ou 3 décennies?
C'était Ismaël Diallo, défenseur burkinabé des droits de l'homme.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, doit comparaître ce mardi devant un tribunal sud-africain. Interpellé le 29 décembre 2018 à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt américain en rapport avec des prêts secrets de 2 milliards de dollars octroyés au Mozambique entre 2013 et 2014. Précision de Timothée de Langmaï.
L'affaire ressemble à un scénario hollywoodien. Des banquiers londoniens, investisseurs internationaux et responsables mozambicains montent des dossiers fictifs. Plusieurs compagnies nationales mozambicaines chercheraient des prêts pour rebâtir leur pays sortant d'une guerre civile. Vu les richesses minières du Mozambique, quelques 2 milliards de dollars de prêts sont octroyés à l'insu du gouvernement, des fonds qui prennent d'autres destinations que le trésor public. Ce n'est qu'en 2016 que le gouvernement mozambicain découvre le poteau rose. Ne pouvant pas honorer cette dette massive, le pays se retrouve en défaut de paiement. Une crise économique s'en est suivie avec la chute de la monnaie nationale et une flambée des prix. Au moins 4 personnes ont été arrêtées en rapport avec cette affaire et attendent d'être extradées vers les États-Unis. Parmi eux, l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, interpellé la semaine dernière en Afrique du Sud. C'est un développement majeur, estime l'analyste Alex Vines du groupe de recherche Chatham House à Londres.
So it looked as if nothing would happen about these many millions, probably billions of US dollars that were accounted for.
C'était comme si rien ne serait fait concernant ces millions, probablement milliards de dollars disparus. Les principaux suspects ont été inculpés par le tribunal fédéral de New York et c'est un développement majeur, un tournant.
Is very, very significant and is a game changer, I think.
Les Mozambicains ordinaires applaudissent le coup de filet, mais les dirigeants gardent le silence, relève le commentateur mozambicain Fernando Lima.
It caused this huge embarrassment for the current government.
Cela a causé un grand embarras au gouvernement actuel. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'aucun responsable mozambicain ne s'est prononcé sur l'arrestation de M. Chang. Ni le gouvernement, ni le parti Frelimo au pouvoir, ni le procureur général, ni même notre parlement.
On ignore l'impact que pourrait avoir cette affaire sur le président Philippe Nyusi, ministre des Finances, au moment de ses prêts fictifs. Entre-temps, le FMI et les bailleurs de fonds qui avaient gelé les prêts au Mozambique sont maintenant impatients de tourner la page, d'autant plus que le Mozambique commencera à exporter du gaz naturel à partir de 2023.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.